Go, go, la revue de presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et tous, toujours très heureux de vous retrouver pour la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire donc, hein, qui vous parle de jeux vidéo avec amour, panache et robustesse. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que le week-end a été velouté, doux, réparateur et tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui ont bossé ce week-end, eh ben, j'espère que ça s'est pas trop mal passé. Bon, il y a un gros programme cette semaine, beaucoup de choses, beaucoup d'annonces. Ce matin, c'est une spéciale PlayStation 5, hein, les dernières rumeurs qui courent, les derniers leaks, des indiscrétions de personnes qui connaissent des gars, qui connaissent des personnes et qui connaissent des gars. Non, blague à part, bien sûr, on va quand même parler de la PlayStation 5, c'est incontournable. Les reports, Sony, on va parler de Resident Evil 3, il y a pas mal de choses à dire cette semaine, ça n'a pas été encore évident de tout condenser. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on attaque tout de suite, voilà, allez, c'est parti, à toute berzingue, sur l'autoroute du JV et de l'information. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la brochette de news, celle que le monde nous envie. Et on va commencer avec l'un des premiers reports hein, de la semaine qui vient de s'écouler, enfin de la semaine dernière plus précisément. Final Fantasy VII Remake est donc repoussé au 10 avril 2020. Bou, bou, bou et triple bou, moi c'est vraiment un de ceux que j'attendais le plus. Je préfère voir un jeu repoussé et peaufiné que de le sortir comme ça, voilà, alors qu'il est un peu cassé encore. Et ce sont des gros titres, vous verrez, hein, Final Fantasy VII et ceux dont on va parler plus tard, ce sont des gros titres qui peuvent se le permettre, effectivement, en espérant que les équipes ne crunchent pas trop, et c'est toujours ça qui fait un petit peu peur. Square Enix France a tweeté ce message. Un message de l'équipe de développement de Final Fantasy VII Remake. Nous savons que nombre d'entre vous attendent la sortie de Final Fantasy VII Remake et ont patiemment attendu de pouvoir explorer le fruit de notre travail. Nous avons décidé de repousser la date de sortie du jeu au 10 avril 2020 afin de garantir que le jeu que nous publierons sera à la hauteur de notre vision et de la qualité que nos fans qui l'ont tant attendu méritent. Nous avons pris cette difficile décision afin de pouvoir profiter de quelques semaines de travail supplémentaires afin d'apporter les touches finales au jeu et vous proposer la meilleure expérience possible. Je souhaite présenter mes excuses et celles de toute l'équipe à tous nos fans, car je sais que cela signifie que vous devrez attendre un petit peu avant de jouer au jeu. Merci de votre patience et de votre soutien. Et c'est Yoshinori Kitase qui nous dit cela, hein, le producteur d'FF7 Remake est l'une des figures historiques hein, de la saga. Donc FF7 Remake hein, est reporté au 10 avril 2020. Il va falloir donc se montrer patient. Mais ce n'est pas le seul jeu Square Enix à être repoussé, puisque Marvel Avengers a été lui aussi repoussé à septembre 2020. C'est tryagame.fr qui nous parle de cela et qui nous annonce donc hein, que Square Enix et le studio Crystal Dynamics, hein, donc qui s'occupe de cet Avengers, vous le savez, ont donc repoussé le jeu. Les développeurs, hein, nous dit tryagame.fr, les développeurs affirment avoir besoin de temps pour polir les mécaniques et l'univers de nos super-héros. Mais le report le plus commenté est bien évidemment celui de Cyberpunk 2077 qui lui vraiment fait un bond spectaculaire jusqu'au mois de septembre. Oui, le jeu tant attendu hein, du studio CD Projekt est lui vraiment repoussé là au 17 septembre 2020. Numérama nous rapporte hein, que le studio polonais, donc CD Projekt, hein, assume comme il se doit ce retard en indiquant qu'il avait besoin de ces quelques mois supplémentaires pour terminer le développement. Selon ses dires, donc, hein, Cyberpunk 2077 est bel et bien terminé et jouable, mais il y a encore du travail hein, pour faire du jeu, je cite, « la réussite suprême sur cette génération de machines ». Oui, puisque CD Projekt s'est fendu aussi d'un message officiel. Donc je rappelle que Cyberpunk 2077 hein, était prévu, enfin est toujours prévu, hein, attention, sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia, et qu'initialement, eh ben, ce méga blockbuster tant attendu devait sortir le 16 avril, donc ça approchait. Septembre 2020. Voilà, 17 septembre 2020, ça va être long. mais ne jouons pas les enfants gâtés, sachons rester adultes, sachons raison garder, j'ai envie de vous dire. Moi, je pense surtout aux équipes de développement en espérant que ce ne soit pas trop dur pour eux. Changement total d'univers avec le Nintendo Direct spécial Smash Bros Ultimate du jeudi 16 janvier dernier. C'est NintendoTown.fr qui nous cause de tout cela en nous disant que le professeur du monastère Garreg Mac est le cinquième combattant additionnel de Super Smash Bros Ultimate. Le développement de 6 autres combattants additionnels a été annoncé et le DLC Fire Emblem Three Houses Ombre Embrasée sera disponible le 13 février. Et donc c'est Billette. Je ne ferai pas le jeu de mots mobilette qu'on a vu partout sur Twitter. C'est déjà vieillot et ringard, les gars, je vous assure. Donc le célèbre mercenaire et professeur issu de Fire Emblem Three Houses donc vient donner une leçon de combat aux joueurs de Smash Bros Ultimate, nous dit NintendoTown.fr. Dans une vidéo diffusée donc lors de ce Nintendo Direct, Masahiro Sakurai, le directeur de Smash Bros, a montré pour la première fois en action ce personnage aguerri donc de la saga Fire Emblem qui entrera dans l'arène le 29 janvier. Monsieur Sakurai a fait la démonstration de son style de combat unique qui lui permet de garder ses distances, dévoiler le nouveau stage monastère de Garreg Mac et annoncer 11 nouvelles pistes audio tirées de la série de Fire Emblem. Tout ceci sera disponible donc plus tard dans le mois. Contenu additionnel donc aussi de Fire Emblem nommé Ombre Embrasée qui arrivera le 13 février dans le cadre du pass d'extension de Fire Emblem. Le nouveau contenu pour Smash Bros Ultimate sera disponible pour les possesseurs du Fighter Pass, ça vous vous en doutez, ainsi que pour ceux qui achèteront le set de combattants séparément bien sûr. Alors en plus de l'annonce de Billette, le développement du Fighter Pass Volume 2 qui inclura 6 nouveaux combattants a été dévoilé, pas les combattants, l'existence de ce Fighter Pass Volume 2. Chaque set bien sûr inclura un nouveau combattant, un stage et de nouvelles pistes audio. Il y a aussi des nouveaux costumes pour les Mi, il y a eu pas mal de petites choses comme ça. Je vais pas vous faire non plus tout le déroulé complet puisque Smash Bros, voilà, c'est un peu comme Pokémon, si on est dedans c'est top, si on n'est pas dedans on s'en moque un petit peu. Je sais que c'est un petit peu ragé, beaucoup ont critiqué le fait qu'on avait encore des personnages de Fire Emblem. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez, hâte revue de presse, j'y vais tout coller. Une nouvelle assez étonnante que j'ai pu lire sur Gamekult, l'exclusivité PlayStation 4 Horizon Zero Dawn, que j'avais adoré, serait en route pour une sortie PC. Oui, vous le savez, pourtant c'est une exclue PlayStation. Alors il y a eu une rumeur, Gamekult nous rappelle qu'il y a eu une rumeur, c'est vrai, qui courait depuis un certain temps sur le fait qu'Horizon allait débarquer sur PC, mais visiblement, c'est en passe d'être confirmé officiellement. C'est ce qu'affirme Jason Schreier, vous savez, de Kotaku, qui est toujours dans les bons plans, dans les bons coups, et souvent qui ramène des infos qui se confirment par la suite. Et Gamekult de nous rappeler qu'une sortie de Horizon Zero Dawn sur PC aurait une signification assez forte, car cette fois-ci, il s'agit d'une licence entièrement développée par un des Sony Worldwide Studios. C'est une de ses exclusivités majeures, c'est l'une des nouvelles IP de Sony qui est née sur PlayStation 4, on ne doute pas qu'il y aura un 2 sur PlayStation 5. Et toujours d'après Jason Schreier, la sortie d'Horizon sur PC pourrait avoir lieu non seulement sur l'Epic Game Store, mais aussi sur Steam. Donc, affaire à suivre, comme on dit, quand on est un professionnel de l'information informée. Enfin, allons du côté de chez Xboxygen qui nous parle du streaming console, et oui, qu'a lancé Microsoft là il y a quelques jours. Le streaming console est lancé, alors avant toute chose, et pour éviter toute confusion, Xboxygen rappelle que le streaming console est bien différent du projet xCloud envisagé par Microsoft, puisque ce dernier sera bien une diffusion des jeux directement via le cloud, ça... On en avait déjà parlé dans l'émission. Le streaming console, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de jouer en streaming sur votre téléphone ou votre tablette à tous les titres installés sur votre Xbox One et ceux du Xbox Game Pass, si vous êtes abonné, bien évidemment. Donc, les membres du programme Xbox Insiders en France vont pouvoir profiter du nouveau service et aider Microsoft à améliorer le jeu en streaming via leur retour sur leur expérience de jeu, puisque c'est un test. Je vous mettrai le lien de la news si vous êtes concerné. Xboxygen détaille exactement comment utiliser le service, mais je rappelle qu'il faut vraiment faire partie du programme Xbox Insiders. Le sondage que je vous avais posé la semaine dernière portait sur la PlayStation 5 et plus précisément la question était la suivante, la presse JV et les influenceurs en font-ils trop sur la PS5 Point d'interrogation. Vous avez été plus de 100 à voter, enfin on a dépassé la barre des 100, donc ça c'est bien. 31% 1,7, hein, donc la majorité, non, c'est normal, c'est la PlayStation 5, quoi. Effectivement, on peut tout à fait comprendre hein, que la PlayStation 5, moi y compris, hein, voilà, c'est la console que j'attends le plus sur cette génération, c'est la console sur laquelle j'ai le plus joué, la PS4. Donc, bien évidemment, on est beaucoup à l'attendre, hein, c'est pas une surprise. Oui, ils en font un peu trop. 28,7%, très très gros chiffre, hein, ça s'est vraiment fighté entre les deux premiers. Même entre les trois premiers, j'ai envie de dire, puisque oui, ils en font trop, je sature à 26%, 26,7% même plus précisément, à saturer. Surtout, je pense le côté influenceur sur YouTube, parfois, et voilà, dès qu'on apprend que. Une mouche et a frôlé la PS5 et a fait un petit prout à côté, vous avez tout de suite 10 000 vidéos avec des têtes improbables en miniature. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, voilà, hein, on en est quand même plein la calbombe. Et à 12,9%, News PS5, ici, clique vite. Voilà, c'était la petite boutade que vous avez aimée, visiblement. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce sondage. Il y a un nouveau là. Voilà, qui est tombé normalement depuis hier, hein, si vous écoutez l'émission lundi, un nouveau sondage sur le compte Twitter de l'émission, le seul compte Twitter qui compte, @revuedepresse.jv, tout collé. N'hésitez pas à partager, à répondre, et puis on en discute, et puis voilà, c'est la vie, quoi. Ce fut un mini-séisme, Sony ne sera pas présent à l'E3 2020, n'y présentera pas sa PlayStation 5. Alors, on aurait pu peut-être l'anticiper, effectivement, puisque Sony change radicalement sa communication depuis quelques mois, depuis plusieurs mois, et on le savait, ça avait été annoncé de toute façon. Mais cette absence à l'E3 est quand même très importante, et on peut comprendre que ça ait fait tant et tant parler, et que ça ait généré tant de commentaires. Jeuxvideo.com nous dit qu'en pleine année de lancement, donc un des consoles de nouvelle génération, Sony va effectivement se passer de l'E3 pour mettre en lumière sa PlayStation 5 et participera à la place à des centaines d'événements dédiés aux consommateurs. Hein, c'est ce que Sony a annoncé. Un porte-parole de Sony a justifié cette décision hein, auprès de Games Industry, des propos que nous rapporte jeuxvideo.com, je cite, « Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l'E3 2020. Nous avons un grand respect pour l'ESA, donc ça c'est l'organisation qui s'occupe de l'E3, en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l'E3 2020 en fait le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année. Nous construirons notre stratégie d'événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d'événements grand public à travers le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans aient l'impression de faire partie de la famille PlayStation et puissent jouer à leur contenu préféré. Nous avons un fantastique catalogue de titres à venir sur PlayStation 4 et avec le lancement prochain de la PS5, nous nous réjouissons vraiment d'une année de fête avec nos fans. » Alors, c'est un coup dur pour l'E3, l'ESA, ou l'ESA, hein, prononcez comme vous voulez, qui organise donc le fameux salon, a elle aussi réagi avec ce communiqué, je cite, « L'E3 est un événement emblématique célébrant l'industrie du jeu vidéo et mettant en vedette des personnes, les marques et les innovations, redéfinissant un divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L'E3 2020 sera un spectacle passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des espaces d'exposants, des activations et une programmation qui divertiront les participants, anciens comme nouveaux. L'intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l'attention des marques qui considèrent l'E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier. » Alors, jeuxvideo.com nous explique que le terme « activation » pourrait renvoyer à la nouvelle orientation du salon en festival de fans, hein, de médias et d'influenceurs. Hein. Certains professionnels de l'industrie estiment que la grande messe annuelle du jeu vidéo, hein, donc l'E3, a perdu de son attrait ces dernières années. On nous rappelle qu'Electronic Arts n'y prend plus part depuis 2016. EA organise son EA Play en parallèle. Microsoft a pris de la distance en investissant le Microsoft Theater, situé non loin hein, du Los Angeles Convention Center, où se déroule l'E3. Et le journaliste, encore lui, Jason Schreier de Kotaku, évoque de son côté des tensions hein, avec l'ESA. Il nous dit, je cite, « Une anecdote croustillante que j'ai entendue l'an dernier et que la principale raison de Sony pour avoir manqué l'E3 était les désaccords, tensions, conflits avec l'ESA qui sont sûrement les facteurs déterminants ici aussi. » Oui, puisque nul besoin de rappeler que l'année dernière, Sony n'avait pas participé à l'E3 également, hein, ce qui avait fait grand bruit aussi. Et à propos de cette absence de Sony à l'E3, le tipeur, le contributeur Bibarjack, que je salue et que je remercie, nous fait part de son avis sur la question.
Pour la deuxième année consécutive, Sony décide de ne pas participer à l'Electronic Entertainment Expo, l'E3. Autant il était compréhensible de la part de Sony de faire l'impasse en 2019 pour préparer comme il se doit l'annonce et la sortie de leur nouvelle console, la PS5, autant il est surprenant d'apprendre qu'une nouvelle fois Sony sera absent du plus grand salon du jeu vidéo cette année. Cette absence sera compensée par plusieurs events dans le monde entier pour présenter la PS5. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? L'E3 est une vitrine et un condensé d'annonces dans le monde vidéoludique. Si on prend l'exemple de Nintendo qui a changé sa manière de communiquer depuis plusieurs années lors de ces événements, par le biais notamment des Nintendo Direct, cela n'empêche pas Big N d'être tout de même présent avec les Treehouse, les bornes de test. Louper cette vitrine, c'est louper une communication sur la console. Je me pose plusieurs questions avec cette absence de Sony. La console est-elle prête pour des démonstrations en juin prochain, les jeux et les consoles ? Sony aurait-il un budget communication suffisant pour couvrir un tel événement ? Soyons honnêtes, l'E3, ça coûte cher. Faire des events dans le monde entier pour présenter sa console, ça coûte très cher aussi. Sony ne ferait-il pas une erreur en ne montrant pas sa console aux journalistes fortement présents lors de cet événement ? Mais surtout, aux éditeurs qui ne développent pas encore pour la PS5 et qui aimeraient en savoir un peu plus avant de se lancer ? Et enfin, surtout, est-ce que l'E3 ne serait pas en train de devenir un simple salon avec le départ de Sony, qui n'est peut-être pas définitif ? Au vu du succès de la PS4, il est fort probable que la sortie de la PS5 soit une réussite. Mais le plus important pour un éditeur de ce type-là, ce sont les mois et les années à venir.
Alors on va continuer à parler un tout petit peu de la PlayStation 5 en allant sur PresseCitron.net. PresseCitron.net qui nous rapporte à nouveau des propos de l'incontournable Jason Schreier qui nous dit, je cite, « J'ai entendu parler de certains des titres de lancement de la PlayStation 5. Je ne vais pas les nommer tout de suite car je vais essayer de faire une sorte d'article à ce sujet plus tard. Mais ces jeux ne tourneront que sur PS5. Certaines des choses que j'ai entendues ne sortiront que sur PlayStation 5. » Et donc Sony, d'après Jason Schreier, donc prévoit des exclusivités PlayStation 5 lors de la sortie de la console et pas des titres cross-gen. Là, ce qui est une stratégie inverse pour Microsoft qui a confirmé que dès son lancement, les jeux de la nouvelle Xbox seront également disponibles sur la Xbox One pendant environ 2 ans. Donc pendant environ 2 ans, Xbox One et Xbox Series X, les jeux pendant 2 ans seront cross-machine. Voilà. Alors est-ce que c'est une erreur d'ailleurs ? Je me suis posé la question, est-ce que c'est une erreur de stratégie de la part de Microsoft ? Y aller pour, y aller contre, j'ai envie de vous dire. Ce sont des débats passionnants. N'hésitez pas, sur le Discord de l'émission, le lien est dans la description de l'épisode, sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez. On en parle toujours dans le respect de la personne humaine, c'est très important. Je n'aime pas vraiment les guerres de clochers, mais par contre, ce nouveau duel qui se profile, Microsoft-Sony, avec la différence de stratégie, l'absence de Sony à l'E3, etc., toutes ces choses font que ça rend ce duel absolument passionnant. Mais sachant, mesdames et messieurs, restez fair-play, respectueux, et tout se passera très bien. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties ? Eh bien, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/la-revue-de-presse-jv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee. tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous savez, donc ça vous donne maintenant 2 moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi, maintenant, désormais. Vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez. Et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet. Vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee et il y a aussi le Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement et je fais 1000 bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon de me soutenir, car vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end et certains soirs de semaine en plus de mon boulot. Et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, coup de gueule tout d'abord de Fabien. Salut Fabien, coup de gueule contre la cérémonie des Pégases d'or, nous dit-il, qui parvient à créer le prix du meilleur influenceur. Rien que ce terme est hallucinant, je propose de renommer la cérémonie en Pigeon d'or. Alors là, ça au moins c'est dit, c'est vrai que hein, les influenceurs, ça chatouille les moustaches de beaucoup de monde. Vanifraise nous dit Cave, et oui, le développeur mythique de Shmup, et l'archétype, nous dit Vanifraise, hein, de la boîte japonaise qui ne regarde pas plus loin que le bout de son groin. C'est fou, la boîte est assez sur une mine d'or en matière de licence et ne cesse de savonner sa planche en ne sortant pas ses jeux en dehors du Japon ou alors sur Steam à des prix qui ne correspondent pas au marché. Cette boîte n'a pas de stratégie parce que ses dirigeants ne comprennent pas ce qu'ils sont, un studio iconique. Et oui, il nous rapportait une news qui nous fait part d'une difficulté financière, hein, vraiment assez prononcée pour le mythique studio qui là allait développer un jeu smartphone pour essayer de se refaire la cerise. Pipo, lui, nous dit tous les jeux dispo sur iOS qui ne le sont plus parce que la flemme de passer en 64 bits. Le pire, c'est que moi, j'avais acheté tous les shoots sur iOS et je ne peux plus jouer à rien. Merci les gars, j'avais tout acheté Day One et les portages étaient top en plus. La haine, bordel! Et oui, Pipo, effectivement, et on en avait parlé, je crois, lors de la saison 2 de la revue de Pré-JV. Hein. Ça avait été annoncé. Donc c'est quand même les boules, effectivement. Et Lina Nounette qui a un coup de cœur pour un doc que je n'ai pas encore vu. Le doc, le fameux doc hein, qui a fait tant parler de Game Spectrum sur la masculinité dans le jeu vidéo. Ça avait été d'ailleurs un coup de cœur la semaine dernière. Il faut vraiment que je me jette sur ce doc qui est assez long. C'est pour ça que, avec mon planning très chargé, c'est difficile de le caser, mais il faut vraiment que je m'y jette. Merci à toutes et tous hein, pour vos coups de gueule et coups de cœur. Et donc, si vous êtes tipeur ou patron, n'hésitez pas à me faire part de vos coups de gueule et coups de cœur pour que j'en parle la semaine prochaine. Le jeu de la semaine, c'est Dragon Ball Z Kakarot, l'action RPG développé par CyberConnect2. Alors CyberConnect2, hein, on les connaît surtout pour moult et moult jeux Naruto et Hack, mais aussi Asura Wars, hein, entre autres. Action RPG donc hein, destiné au PC, au Xbox One et au PlayStation 4, qui est sorti donc le 17 janvier dernier. J'ai craqué, hein, je l'ai acheté. Alors au moment où je vous parle, j'ai pas encore eu le temps de le lancer, mais je suis un grand fan de Dragon Ball depuis toujours. Et là, partir sur un action RPG qui nous fait revivre l'arc des Saiyans, l'arc Freezer, l'arc des cyborgs, l'arc Cell, l'arc Boo, dans des grandes zones où là on se balade dans l'univers d'Akira Toriyama, on se balade dans l'univers de Dragon Ball, tout ça est fort fort séduisant. L'accueil critique de Dragon Ball Z Kakarot. JV.com lui met un timide 13 sur 20, c'est Logan, hein, qui nous dit « Sans doute trop occupé à essayer de coller au mieux au matériau original, CyberConnect2 s'est un peu perdu en chemin concernant la technique et dans une certaine mesure le système de jeu. En soi, rien n'est vraiment mauvais et si on y retrouve quelques excellentes choses, hein, beaucoup d'éléments s'avèrent malheureusement moyens. On éprouvera pourtant beaucoup de plaisir à revivre l'ensemble des face-à-face iconiques de la saga, d'autant que les affrontements sont dynamiques et s'appuient sur une jouabilité instinctive. Malheureusement, entre des combats se ressemblant tous plus ou moins, un aspect RPG assez limité, une réalisation datée et une mise en scène fidèle mais manquant paradoxalement de dramatisation, de nuances, sans parler de nombreuses ellipses et d'une censure trop présente, le ressenti global s'avère mitigé. Si on éprouvera encore une vraie satisfaction à suivre cette aventure mille fois racontée, difficile d'être totalement conquis devant ce résultat naviguant continuellement entre classicisme, fanservice, dynamisme et erreur de game design. De son côté, Romain Mahut de chez Gameblog est beaucoup plus dithyrambique, hein, lui met un 8 sur 10 au jeu et nous dit, autant être clair, Dragon Ball Z Kakarot surpasse tous ses nombreux prédécesseurs en matière d'immersion dans le Dragon World et de récit interactif de l'histoire imaginée par Akira Toriyama. Aucun autre jeu n'est parvenu à donner à ce point aux joueurs l'impression de traverser le monde de Dragon Ball et d'interagir avec ses personnages, tout en faisant honneur aux scènes cultes de la série. Mais malgré ses réussites du côté de la narration, du contenu ou de la réalisation, le jeu n'est pas parfait. Si certains fans de DBZ prendront un pied incroyable à jouer au titre de CyberConnect2, d'autres pourraient rester sur leur faim. Des domaines auxquels le joueur accorde de l'importance dépendra son appréciation de DBZ Kakarot. Les joueurs pour qui la narration et l'immersion prime verront leur expérience dans DBZ Kakarot se dérouler comme une session dans la salle de l'esprit et du temps. L'impression d'avoir joué une heure alors qu'une journée complète s'est écoulée dans le monde réel. Pour eux, le jeu est absolument incontournable. Les esthètes du gameplay pour qui la baston compte plus que tout le reste préféreront, quant à eux, rester sur Dragon Ball FighterZ. En cette fin de génération, il apparaît que les Gagabaliens ont le choix du roi et il serait dommage de bouder son plaisir. Actu Gaming a aussi apprécié le jeu, hein, en lui mettant la note de A, c'est Azeo hein, qui s'est occupé de cette review. Sa conclusion est la suivante, Dragon Ball Z Kakarot comblera le fan en manque d'expérience nouvelle sur la licence et qui souhaite autre chose que des jeux de combat classiques. CyberConnect2 a parfaitement réussi à modeler son gameplay, son savoir-faire pour retranscrire les affrontements cultes de la meilleure façon possible, sans oublier que tous les détails sont signés par des développeurs qui sont avant tout des fans passionnés. En revanche, presque tout l'aspect RPG du soft se révèle très vite et répétitif. Heureusement que la patte Dragon Ball est là pour mieux faire passer la pilule. En définitive, on ressort plutôt satisfait malgré les quelques gros défauts, tout simplement grâce à la bousculade des habitudes. C'est ce qu'on attendait le plus pour une adaptation en jeu vidéo du manga et nous sommes servis. Du côté de la presse étrangère, Gaming Bible, lui, met 90 sur 100 et nous dit bien que certains éléments semblent un peu dépassés et que les missions secondaires ne sont pas aussi diversifiées que cela, l'ensemble forme une nouvelle façon profondément captivante pour tout fan de DBZ. Hobby Consolas, en Espagne, 85 sur 100 nous dit « Un vrai cadeau pour tout fan de Dragon Ball qui fonctionne vraiment en tant qu'action RPG en monde ouvert. » Même si le monde n'est pas totalement ouvert, bref, ça c'est encore autre chose. Le critique nous dit « Il n'est pas sans défaut, mais sa longueur et sa dynamique en font une valeur sûre. » EveryEye.it en Italie, 7,5 sur 10, nous dit « Certains choix, pas toujours cohérents, affaiblissent l'aura d'un titre tout de même ludique que les fans accueilleront à bras ouverts tout en étant conscients que la fusion entre l'univers de Dragon Ball et le jeu de rôle n'a pas atteint ici la perfection. » Eurogamer, enfin Eurogamer Italie, « Dragon Ball Z Kakarot est un magnifique monument à la légende de Goku et de son monde merveilleux. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, il est à la fois très proche et très loin d'être le meilleur jeu Dragon Ball existant. » Vous l'avez compris, les avis sont parfois partagés. Le fanservice, le gameplay, l'univers, cette sensation de se balader dans le monde de Dragon Ball, voilà, moi ça m'a complètement conquis, donc j'ai commandé le jeu et voilà, je vous en dirai un peu plus prochainement. En tout cas, voilà ce qu'il fallait savoir sur l'accueil critique de Dragon Ball Z Kakarot. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Playgeek hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Cette semaine, pour le deuxième sujet de l'émission, j'avais envie de faire un petit point Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake, hein, qui est attendu, je le rappelle, le 3 avril, hein, sur PC, PS4 et Xbox One. Et j'aime me balader pour avoir pas mal de biscuits sur la saga Resident Evil, sur biohazardfrance.net, hein, je vous en ai souvent parlé, c'est vraiment le site de référence en France sur la saga Resident Evil, et je salue Hunk, hein, qui fait un travail formidable depuis tant et tant et tant d'années. C'est tout simple, j'ai l'impression que le site a toujours été là, donc c'est absolument incroyable. Bref, biohazardfrance.net, qui nous rapporte donc des propos qu'on a pu lire dans l'officiel PlayStation Magazine UK, qui dans son dernier numéro a réalisé une interview d'un des producteurs d'Hero 3 Remake, Peter Fabiano. Et donc, des infos ont été données hein, lors de cette interview. Tout d'abord, sur le fait qu'il ne fallait pas s'attendre à une exploration de Raccoon City comme dans un jeu open world. Bon, on s'en doutait, mais on est quand même rassuré. Hein, moi, je préfère pour Resident Evil des lieux bien resserrés. Je pense que pour l'ambiance, c'est tout à fait profitable. Mais il y aura bien sûr de l'exploration dans de nombreuses zones de la ville. Oui, parce que je rappelle que Resident Evil 3, vous mettez dans la peau de Jill Valentine dans les rues de Raccoon City, un petit peu dans la peau de Carlos aussi, ça on va y revenir. Donc le Nemesis, Stars, l'ennemi qui a marqué tout le monde, alors que voilà, ce n'est qu'un clone pour moi du Mr. X de Resident Evil 2, mais je ne voudrais pas fâcher les fans les plus hardcore du Nemesis. Le Nemesis donc utilisera une version améliorée de l'IA développée pour le tyran de Resident Evil 2 Remake justement. Donc c'est vraiment une version upgradée. On nous dit aussi dans cette interview que le son aura une très grande importance dans une ville comme Raccoon City. Il faudra s'y fier pour anticiper des dangers vous guettant au coin d'une rue. On nous confirme aussi qu'on pourra visiter donc des boutiques, la station essence à Instagla, les bureaux de Raccoon Press, l'hôpital, etc. Donc comme dans le jeu PlayStation original. Je rappelle que RE3 était le dernier de la trilogie PlayStation et qui était un épisode pour faire attendre les fans puisque Resident Evil Code Veronica prenait du temps. Le mode mercenaries ne fera pas son retour selon le magazine, ce qui en a déçu beaucoup. Bon, moi le mode mercenaries, je m'en suis toujours plus ou moins tartiné les miches. Moi c'est l'aventure principale qui m'intéresse, donc moi ça m'empêchera pas de dormir. Les vers mutants seront bien de retour. Carlos sera bel et bien jouable, c'est ce qu'on a vu dans le dernier trailer. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques jours un nouveau trailer beaucoup basé sur le Nemesis, donc un nouveau trailer de ce RE3 remake qui fait fait super envie. Et autant Resident Evil 3 était loin d'être un de mes chouchous sur les épisodes classiques, j'ai aimé, mais je préférais largement le 1 et le 2 et le Code Vero, et ben là il me fait autant envie que le remake du 2. Vous voyez ce que j'ai vu, ça me sauce, comme disent les jeunes. Salut les jeunes. Donc oui, Carlos sera bel et bien jouable, donc comme dans le jeu original, sauf que là, à mon avis, et c'est ce qu'on sent hein, bien sûr dans ce trailer et dans les déclarations, il sera jouable beaucoup plus longtemps que dans le jeu original. Il n'y aura pas de mécanisme du choix d'action comme dans l'original. Par contre, vous savez, quand le Nemesis apparaissait, on vous donnait le choix entre deux petites actions qui amenaient quelques petites modifications sur la suite de cette action. Justement, quand le Nemesis apparaît, on vous donnait le choix entre deux actions à réaliser. Ça, bah, visiblement, ça a disparu. Ça, je pense que ça va peut-être faire un peu de peine aux fans hardcore d'RE3. Et il n'y aura pas non plus plusieurs fins. Il sera donc intéressant de savoir qui pilotera l'hélicoptère en fin de jeu. Donc merci à biohazardfrance.net pour ces infos issues du PlayStation Magazine britannique. Mais on va rester sur Resident Evil 3 en allant du côté de chez GameCult, hein, qui nous signale que le jeu aura plus d'éléments à ranger que le remake de Resident Evil 2. Oui, on nous explique que les joueurs découvriront un jeu qui comprend davantage de retouches et de différences comparées donc au remake de l'année dernière. Alors certes, nous expliquons, le scénario suit dans les grandes lignes le jeu de 1999, mais ces nombreux arrangements permettront de surprendre les fans du titre original. D'une façon générale, les producteurs rappellent aussi que RE3 est plus orienté action que Resident Evil 2, ce qui était déjà le cas sur PlayStation. Hop, on fait un petit bond du côté de chez GamerGen, qui nous parle du nouveau look de Jill Valentine, et oui, qui a surpris aussi pas mal de monde. La motion capture a été utilisée pour les personnages principaux, vous le savez. Et donc nous avons appris que Jill Valentine, derrière ce personnage iconique de la saga Biohazard, se cache Sasha Zotova, mannequin de profession, qui n'avait jamais fait de travail de comédienne jusqu'alors. Donc voilà, c'est une info indispensable qu'il fallait bien évidemment donner. Jeuxvideo.com, lui, nous dit justement que par rapport à tous ces reports, Capcom promet que le jeu sortira à l'heure. Capcom s'est engagé, et c'est lors notamment d'une interview accordée à Famitsu que Peter Fabiano et Masao Kawada ont annoncé que le développement du remake d'RE3 était achevé à 90%, mais ils nous ont assuré que le jeu sera bel et bien là le 3 avril 2020 pour toutes et pour tous. Alors je ne sais pas vous, mais bon, je l'attends énormément aussi. Ce début d'année 2020 est fou malgré tous ces reports, ça reste quand même assez foufou. Et c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous donnera panache et robustesse pour la semaine. J'aimerais remercier les tipeurs, les contributeurs de l'amour. Merci pour votre soutien, c'est vraiment super important. Merci à Neo Calimero, Malodélique, Crocodine, Pipo Letsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwididjou, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machin Truc76, Garan, Laure, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Nounette, Pikachu HL9, Nicolas Vanifraise, XNili, Carnoct, Melkioc, Luterian, Azas, Laconet, Volix, Forza Pedro, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Et aussi Gontran sur Patreon. Merci à toi. Merci mille fois tout le monde. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Même heure, même flux. Gros béco. Et à tantôt. Bye bye.